En direct par téléphone, Laure Limongi, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, avec toi, Laure, nous allons parler de cette figure de Raymond Federman qui est décédé il y a quelques semaines. Ma première question, ça va être ta première rencontre avec Raymond Federman. Quand est-ce que tu l'as rencontré pour la première fois?
Ça devait être en 2001 ou 2002. C'est Nathalie Quintane qui nous avait parlé avec Laurent Covet, puisqu'à l'époque j'étais chez Aldent, de Raymond Federman. Elle l'avait découvert, le livre, chez Pierre Le Pilouer, un de ses livres, je ne sais plus lequel c'est exactement, chez Pierre Le Pilouer, et en fait, elle avait été absolument stupéfiée par l'écriture. Elle nous avait parlé de Raymond, et du fait qu'il avait eu quand même de nombreuses mésaventures éditoriales jusqu'alors en France, puisque c'était même assez comique, si ce n'était tragique, des livres pilonnés, des rendez-vous ratés avec des éditeurs, des reproches du genre « vous êtes un traître à la cause parce que vous êtes né en France mais vous écrivez en anglais et en français », enfin des tas de péripéties comme ça. Et en fait, on a rencontré Raymond donc en 2001 ou 2002 à l'occasion de l'un de ses voyages à Paris, puisqu'il habitait à San Diego aux États-Unis. Et on a été évidemment, Laurent Covet et moi, complètement sous le charme de sa personnalité, qui était, j'ai du mal à en parler en passé, qui était vraiment, d'une générosité absolue, d'une lumière absolue, d'une énergie colossale. Et voilà, et donc Laurent a publié quelques livres chez Aldent, et moi j'avais pris le relais donc chez L'Orly, la collection que je dirige aux éditions Léo Cher.
Quand tu l'avais rencontré pour la première fois, il avait déjà un certain âge du coup.
Ah oui, mais en fait on ne pouvait pas savoir que Raymond avait son âge, puisqu'il était tellement... il y avait quelque chose de très très enfantin toujours dans son regard, très espiègle... Puis c'est quelqu'un qui riait tout le temps, de tout, qui pouvait parler d'histoires tragiques, mais toujours en triste fou rire. C'est comme ça qu'il avait appelé sa façon d'écrire et sa façon d'être. Il faut dire qu'il a eu une vie qui était quand même hors du commun, puisqu'il a échappé à la rafle du Veldiv en 42, sa mère l'ayant poussé de manière précipitée dans un placard, alors que tout le reste de sa famille, ses deux parents et ses deux sœurs, ont été déportés. Ensuite, il s'est retrouvé, par miracle, il a réussi à passer en zone libre et s'est retrouvé quasiment esclave dans une ferme en zone libre pendant tout le temps de la guerre. Et puis après, par des cousins, d'oncles, etc., il est parti aux États-Unis, il a fait la guerre de Corée. Voilà, il a eu une sorte d'existence comme ça, extrêmement romanesque. Il a toujours gardé cette espèce d'énergie de survivant. Il a écrit d'ailleurs que pour lui, c'était un surplus de vie que lui avait offert sa mère en le sauvant de la rafle du Veldiv. Et donc, il incarnait ça totalement. Moi, j'ai des souvenirs de soirées de signature et de lecture en librairie, où moi, j'étais absolument crevée à 1h, 2h du matin, et où Raymond ne voulait toujours pas aller se coucher. Donc, c'était l'inverse, c'était moi qui étais fatiguée. Et il n'était jamais fatigué. Il est venu pour la dernière fois en France en avril dernier. J'avais organisé une sorte de tournée... dans des villes de province, à Paris, donc à Nantes, Rennes, Paris, etc. Et dès qu'il était sur scène, il manifestait une espèce de vitalité qui était absolument époustouflante, alors qu'il était déjà très 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 malade, il avait déjà été opéré, etc. Mais ça ne se voyait pas. Du moment qu'il était sur scène et qu'il partageait des choses avec son public, ses lecteurs, c'était une sorte de force transcendante. Et pour lui, c'est vrai que ce rapport au lecteur, au public, était très très important. Il avait beaucoup de tendresse pour... il avait beaucoup de correspondance avec des gens qui lui écrivaient comme ça parce qu'ils aimaient ses livres. Et il répondait vraiment avec beaucoup d'attention et de tendresse.
La dernière fois que tu l'as vu, c'était lors de cette tournée en France. Il faisait des lectures?
Oui. Il avait fait notamment à Paris, c'était à Beaubourg, avec le saxophoniste François Janot. C'était vraiment très joli parce qu'il ne se connaissait pas. C'est moi qui avais l'idée j'avais rencontré François Janot grâce à Olivier Mélano, et c'était à peu près, enfin François Janot est plus jeune, de la même génération, en tout cas de la même histoire musicale, jazz, post-jazz, puisque Raymond avait joué du saxophone étant plus jeune, et c'était vraiment une rencontre, une sorte d'amitié naissante qui s'est fait sur scène, et la salle était vraiment bondée, et les gens étaient très 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 émus de cette rencontre, et effectivement c'est la dernière fois que je l'ai vu.
Et à chaque fois, du coup, où tu le rencontrais, vous parliez de quoi? De littérature, est-ce qu'il avait encore des projets littéraires, hein?
Ah oui, non, mais ça, il n'a jamais cessé d'avoir des projets. Oui, on parlait de littérature, beaucoup de Beckett, mais avant tout, parce qu'il a fait sa thèse sur Beckett, la première thèse publiée aux États-Unis sur Beckett. Mais Raymond, c'était surtout un conteur, qui racontait toujours plein d'histoires. J'avais toujours l'impression avec lui d'être une petite fille en train d'écouter comme ça des histoires formidables ou tragiques. Il parlait vraiment de tout. Ça se voit dans ses livres d'ailleurs. Pour parler des carcasses, il parle beaucoup de golf. Voilà, c'était un foot golf. Donc il pouvait parler de son green, de plein de choses, du casino, de sa femme Erika qui lui avait offert un séjour à Las Vegas pour son anniversaire. Enfin voilà, c'était très divers. Et puis il était aussi très attentif à la vie des gens. Donc on parlait de tout, du chien de sa fille, de mon chat, voilà, de plein de choses.
Est-ce qu'il était attentif à la réception de ses livres, de son œuvre en France? Parce qu'il a, du coup, comme tu le disais, il a raté beaucoup, enfin, il y a eu plein de rendez-vous ratés avec l'édition française.
Oui, mais il était assez triste. J'allais dire déçu, mais je pense pas, parce qu'il faut être dans un certain état d'esprit pour être déçu. Il était triste, parce qu'il pensait qu'il avait des lecteurs à rencontrer en France, et d'ailleurs, c'est vrai. Mais voilà, ça s'est fait de manière un peu bizarre. Enfin, c'est pas non plus. Enfin, ça s'explique aussi par l'histoire. Cette histoire de traître à la cause, il a vraiment toujours. J'en ai toujours souvenu qu'un éditeur lui réponde ça. Il faudrait faire traduire certains de vos livres en français, c'est un comble, vous êtes né en France. Voilà, les gens, certains éditeurs interprétaient son départ comme une fuite. Et alors que c'est vrai que Raymond a toujours une façon d'aborder son histoire. Tout son écriture était toujours très surfictionnelle, c'est-à-dire que ça partait souvent de vécus évidemment extrêmement transformés, avec beaucoup de rapports avec un deuxième narrateur, un narrateur dédoublé, etc. Et voilà, entre le fait que les gens ne comprenaient peut-être pas forcément toujours ça, et puis cette histoire de traduction, c'était un peu compliqué. Mais c'est d'autant plus bizarre que, par exemple, en Allemagne, c'est une star absolue. C'est vraiment, il a fait des dizaines de pièces radiophoniques, ses livres se vendent extrêmement bien, il est vraiment accueilli là-bas comme un très grand auteur. C'est vrai que Raymond a quand même pas mal de lecteurs et surtout de très très grands fans qui proclament qu'il faut lire son œuvre, mais que la plupart des gens sont encore pour l'instant passés à côté de quelque chose avec lui, donc j'espère que ça se fera un jour, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça se fasse un jour.
Et qu'est-ce qu'il faut, on va dire, s'il n'y a qu'un livre à lire de Federman, ça va être les premiers qui ont été publiés en français, Amer Eldorado par exemple?
Oui, c'est un peu compliqué de dire. Ça dépend des gens, en fait, parce qu'il y a des livres assez typographiques, des livres beaucoup plus narratifs, donc c'est assez compliqué. Je pense que La fourrure de ma tante Rachel, c'est une bonne introduction. Ça avait été publié par Aldante, je ne sais plus trop en quelle année, et je viens de le ressortir chez Laure Lee Léaucher, parce qu'il était épuisé depuis longtemps, et parce que c'est un livre, justement, sur lequel il y avait beaucoup de demandes, parce que ça donne une sorte de bon panorama, en fait, de la vie, de l'œuvre de Raymond Federman. Donc ça permet, après, de se déplacer. Ensuite, il y a évidemment Almer Eldorado, Qui tout double, Mon corps en 9 parties, qui est d'ailleurs apparemment un très très gros succès en Allemagne, Mon corps en 9 parties. Et puis il y a Chute et Les carcasses, évidemment. Les carcasses étant un livre assez inhabituel pour lui, parce que beaucoup plus court, mais qui est assez bouleversant quand on le lit, surtout maintenant.
Oui, du coup, parce que Les carcasses apparaît vraiment comme un texte prémonitoire. Du coup, c'est comme s'il sentait sa mort venir, et il se demandait qu'est-ce qu'il allait avoir après.
Mais je pense que Raymond, du fait de son histoire, justement, d'avoir frôlé la mort en étant tout juste un tout jeune adolescent, a toujours eu une réflexion sur la mort très très poussée. Quand un peu de temps après, je l'ai rencontré, 2 ou 3 ans plus tard, il me disait déjà, au détour d'une conversation drôle dans un café, il me disait, tu sais, Laure, il va falloir te préparer parce que des extraterrestres vont venir m'enlever bientôt et m'emmener sur leur planète, alors je ne serai plus là. Et voilà, donc il en riait toujours beaucoup. Et c'est vrai que Les carcasses, c'est ça aussi, c'est à la fois quelque chose de très sérieux sur la mort, est-ce que c'est un grand trou noir, qu'est-ce qui se passe après. Et puis ça part évidemment dans des histoires assez loufoques et pleines de vie, comme on a toujours écrit Raymond Federman.
Et du coup, toi, qu'est-ce qui te reste comme image de Raymond Federman quand il repense maintenant?
Ce que j'ai dit, c'est vraiment quelqu'un de très lumineux, de très... ouais, une sorte de générosité à l'état pur et d'énergie. Souvent, je me suis dit, waouh, si je pouvais avoir le dixième, le centième de l'énergie de Raymond Federman. Pour moi, c'est ça, c'est cette espèce de, d'énergie et de ténacité à vouloir écrire, transmettre une parole, transmettre sa langue. Et ça, c'est, voilà, c'est un leg inestimable.
Et du coup, qu'est-ce qui reste à découvrir de lui? Qu'est-ce qui reste à publier, toi, en tant qu'éditrice? Qu'est-ce qui reste peut-être à traduire?
Il y a beaucoup de choses. Il y a un livre qui s'appelle notamment « Take it or leave it », dont on est en train d'organiser la traduction. Mais il y a, je pense, encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, il me reste à savoir dans quel ordre, voir ceux qui sont épuisés, les rééditer, etc. Voilà, moi, j'aurais bien aimé que Raymond connaisse tout ça de son vivant, mais je pense qu'il sera bien content quand même que, voilà, qu'il y ait de plus en plus de lecteurs. Les éditions Argol aussi ont publié un très beau livre de conversation avec Raymond Federman par Marie Delvigne, qui est vraiment très bien. Il y a beaucoup d'archives photos qu'avait donné Raymond. C'est un livre, c'est l'inverse d'une sorte de, comment dire, de biographie très très sérieuse sur un auteur. C'est au contraire un livre qui transmet vraiment l'énergie, l'enthousiasme de Raymond.
Eh bien, merci beaucoup, Laure, d'avoir répondu à mes questions sur Raymond Federman. Merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt.